Vous écoutez Radio Électron Libre. Bienvenue dans Info ou Intox, une émission présentée par Vincent. Info ou Intox, 60 minutes pour s'interroger. 60 minutes durant lesquelles nous allons ensemble procéder à un décryptage de l'actualité. Info ou Intox sur Radio Électron Libre, nous sommes ensemble pour 60 minutes.
Et bienvenue à tous, bonsoir, bonjour, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez et dans quelle partie du globe. Nous sommes le 19 juin 2025 et c'est le jeudi de la fête Dieu pour nos amis catholiques, voilà. Et nous allons causer aujourd'hui dans cette info Intox XXL des bibilatérales 1, 2, 3. Hein, si on les laisse faire, ils vont continuer jusqu'à combien, vous pensez? On peut se poser la question, hein, parce que depuis, on va dire, la fin des années 80, début des années 90, ils n'arrêtent pas de nous casser les rubignoles avec ce genre de négociations, d'accords, de schmilblick, d'accord. Mais qui, on le verra avec des explications plus détaillées plus tard, mais qui ne profite en fait concrètement. Allez, pas à personne, mais à pas grand monde, à pas grand monde, à pas grand monde. Mais pour commencer cette info ou intox aujourd'hui, en ce 19 juin, je vais vous parler hygiène. Eh oui, hygiène. Oh là 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 là. Et il faut toujours se laver les mains. Rappelez-vous la période du Covid, hein, il y avait j'ai plus l'expression en tête. C'était une expression qui était rigolote pour parler de l'hydrogène, de l'hydrogel, pardon, qu'on vous servait à toutes les sauces, partout où vous alliez, il fallait impérativement se nettoyer les mains en permanence. Et puis, on a aussi derrière toutes sortes de campagnes publicitaires où il faut se nettoyer correctement toutes les parties intimes du corps, la bouche, les oreilles, les parties génitales, etc. On est assaisonné de publicités concernant ce genre de choses. Seulement, on commence à avoir un gros problème et les médecins, alors pas tous, hein, mais ceux qui sont intègres, commencent un peu à tirer la sonnette d'alarme. Et notamment le professeur Martin Zizi qui cette semaine, le 18 juin plus exactement, donc hier, s'est fendu d'un message sur X qui n'est pas piqué des hannetons. Je vais vous retranscrire un peu le message. Il dit qu'il y a plein de travaux du passé qui montrent que la stérilité absolue est une hérésie biologique car elle diminue notre immunité. Voilà. Donc tous ces gens, il a mis tous en majuscule, sont des connards, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, dangereux de surcroît, car il présente, sans savoir grand chose, avoir raison. Alors il explique que sans se vautrer dans la fange, la vie sous cloche est dangereuse pour le microbiome et pour notre physiologie. Voilà. Alors, il donne un exemple qui va parler aux dames. Les maniaques des douches intimes trop savonnées ont beaucoup plus de moniliase et autres infections car leur intimité est défendue par des lactobacilles dont l'acidité les protège contre les mauvais germes. Idem, dit-il, pour le nez, la bouche et les oreilles. Dans notre cul de sac ophtalmique, rajoute-t-il, nous avons deux bactéries symbiotiques qui nous aident pour digérer les débris cellulaires de la cornée et de la muqueuse et garantir la transparence de notre cornée. Ah, on en découvre tous les jours, hein. Notre évolution génétique ne concerne pas seulement notre propre génome, mais les 85 symbiotes qui vivent en nous et qui échangent du matériel génétique et des signaux métaboliques avec notre corps. Eh oui, je découvre plein de choses, moi, de jour en jour, en suivant ce compte sur X. Je vous conseille de le suivre, c'est le professeur Martin Zizi, un professeur belge qui, depuis le début du Covid, et même avant, hein, il a un CV long comme le bras, il sait de quoi il cause. Et j'aime bien son ton un peu incisif, un peu moqueur, parfois même un peu méchant, mais il a raison, il faut appeler un chat un chat. Alors il continue donc avec son histoire de matériel génétique et de signaux métaboliques qui sont dans notre corps, et c'est pour cela qu'il ne faut pas trop jouer avec des ARN ou ce genre de truc, car on n'a pas tout compris de notre propre substrat génétique et des échanges de matériel génétique dit horizontaux, entre guillemets horizontaux. Voilà. Alors, il rajoute qu'il espère que les gens non spécialistes commencent à piger pourquoi je déteste tous ces connards qui ne savent rien sur pas grand-chose, mais en parlent sans arrêt. Alors ici, des émissions sur les radio-télévisions belges. Mais en Suisse, nous avons aussi notre sur la radio-télévision suisse, enfin sur ce qui en reste, parce que pour l'instant, c'est un peu plat. Donc, il explique bien et il donne des exemples. Et puis dans les exemples qu'il donne sur son film, moi j'en ai rajouté un parce que ça m'a tout de suite fait tilt. Donc là, il a parlé du corps humain, mais on a des exemples. Par exemple, dernièrement, c'est le journal Agri Hebdo qui a publié un article là-dessus. Dernièrement, en Suisse, on a un exemple très flagrant concernant justement cette hygiène à outrance qui est distribuée partout. On a l'Emmental AOP. Qui est un fromage avec des trous dedans. Alors ces trous ne sont en fait que des bulles de gaz qui sont formées par des bactéries provenant du foin. Et à l'intérieur de la meule, lors du mûrissement de celle-ci en cave, et puis qui donne à ce fromage son goût si particulier, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des goûts et des couleurs partout. Eh bien, avec la volonté de vouloir tout aseptiser de la traite des vaches aux fromageries industrielles ou artisanales, les fromagers ont constaté de manière flagrante, la diminution de ces bulles de gaz et de ce fait, le changement du goût de l'emmental. Ah, alors là, il y en a qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont dit, oui, mais si le fromage n'a plus le même goût, etc., parce que c'est une AOP, donc appellation d'origine protégée, il y a tout un cahier des charges depuis le début jusqu'à la fin de la construction de ce fromage. Alors, ça pose un problème. Alors, au lieu de revenir un peu, parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, les trous dans le fromage proviennent des bactéries qui proviennent du foin. Alors, au lieu d'arrêter de vouloir tout nettoyer et d'enlever justement les petites particules de foin qui font de ce fromage connu mondialement, un fromage vendu et connu mondialement, ils ont décidé, d'abord en demandant à un tribunal, parce que justement c'est une AOP, ils ont décidé de trouver une autre solution que de revenir en arrière. Concernant certaines mesures d'hygiène outrancière, ils ont décidé qu'ils allaient, donc un tribunal a décidé d'une dérogation pour les fromagers, d'accord, à l'AOP donc, pour que ces derniers puissent y ajouter, lors de la fabrication de la meule, une poudre de foin contenant ces bactéries. Alors là, on marche encore sur la tête, je me dis, parce que on complique les choses, on rajoute une couche sur une couche, c'est un peu comme mettre un plâtre sur une jambe de bois, même si elle est cassée, la jambe de bois, ça va pas la ressouder les os, Voilà, donc c'est une idiotie sans nom. À un moment donné, il va falloir qu'on revienne en arrière, qu'on revienne, comme je le dis souvent, aux fondamentaux, parce que ça ne va vraiment pas, pas du tout. En plus, on a la justice qui s'en mêle, puisque c'est un tribunal qui a pris cette décision-là. Mais voilà, trop d'hygiène tue tout. Tue la vie, peut tuer les êtres humains, et aussi tout ce qu'on mange. Parce que tout est lié, encore une fois, à la nature. Vous avez du foin, là c'est un peu la période maintenant. C'est les particules de foin, la poussière de foin qui rendent malade certains. Il y en a qui font des allergies au foin, qui font le rhume des foins, comme on appelle ça. Donc c'est des allergies. C'est quand même ces particules de foin ont leur utilité, puisqu'elles transportent des bactéries qui, elles, permettent en cave à l'Emmental de produire ce fromage avec le lait des vaches qui sont traites, etc. Donc ces petites bactéries voyagent du foin au pied de la vache et au lait, etc. Et ça, le chemin continue. Mais ça, ils ne l'ont pas compris ou ils l'ont compris trop tard. Donc tout vouloir aseptiser en permanence n'est pas une solution et n'est pas bon, voilà, pour l'espèce humaine et pour les espèces en général, puisqu'il y a des études qui ont été faites concernant ça, notamment avec des enfants où on leur a proposé de boire du lait cuit, du lait cru, de ville ou de ferme, et puis on a constaté que les enfants qui buvaient des trucs stérilisés, je résume un peu, mais les enfants qui buvaient des trucs stérilisés avaient plus tendance à avoir un microbiote pauvre, et puis les autres, ils étaient en meilleure santé, ils tombaient moins souvent malades, etc. Donc les exemples quand même sont empiriques, les preuves, les recherches, etc. sont empiriques, mais prouvent bien qu'il faut arrêter cette hygiène à outrance avec ces foutus sprays qui vous indiquent qu'ils tuent 99,99% des bactéries. Arrêtez un peu avec ça, je dis pas qu'il faut pas se laver, pas se doucher ou quoi que ce soit, non, mais faites-le avec modération, quoi. Hein, voilà. Et puis pour illustrer mon propos, alors c'était un peu tiré par le, comme dirait l'autre, capillotracté, mais pour illustrer mon propos, j'ai eu l'idée, la bonne idée de choisir un morceau musical qui date, mais qui illustre bien tous ceux qui s'occupent des vaches, de la traite et puis de la fabrication du fromage. Et c'est un hommage qui est bien rendu par, vous allez reconnaître pour les Suisses, les bons vieux Suisses du coin, vous allez reconnaître. Je vous laisse découvrir, je vous expliquerai après d'où ça vient. Oui, c'était le Rance des Vaches avec, vous l'avez reconnu, Bernard Romanens. C'est une version qui a été enregistrée en direct lors de la fête des vignerons à Vevey en Suisse en 1977. Et pour ceux qui ont l'occasion d'aller voir, parce qu'il est en vidéo sur YouTube, à regarder cette vidéo, il y a une chose qui est impressionnante, c'est que Bernard Romanens tient son micro à peu près à 30 cm de la bouche, et vous imaginez le coffre qu'il doit y avoir derrière tout ça, parce que tenir le micro à 30 cm et avoir le son qu'on a, c'est assez incroyable, la puissance vocale de ce monsieur. Chapeau à lui. En tous les cas, voilà. J'aurais pu vous mettre une version, on va dire, classique. Il existe des versions avec les orchestres philharmoniques. Mais je trouve que cette version-là a une âme que d'autres n'ont pas. Voilà. Alors, on va continuer avec nos amis catholiques, parce que je me suis dit, mais sur le canton de Fribourg notamment, ou du Valais, c'est férié, c'est congé. Aujourd'hui, 19 juin, c'est la fête Dieu. Alors je me suis dit, mais attendez, c'est quoi cette fête Dieu? Et puis j'ai été un peu farfouillé, cherché, parce que ça fait quand même quelques millions de personnes sur la planète qui ont congé aujourd'hui. Et oui. C'est assez fou, c'est assez extraordinaire. Donc cette fête Dieu, c'est pour fêter la solennité du corps et du sang du Christ, une célébration centrale pour les catholiques du monde entier. Alors, je vais vous emmener un peu dans un voyage à travers l'histoire et la signification de cette fête qui honore la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, donc c'est pour les catholiques. Hein. Et puis, donc on va partir ensemble sur les traces de cette tradition millénaire. La fête Dieu trouve ses origines au XIIIe siècle, dans une Europe profondément marquée par la foi. Et tout commence avec Julienne de Cornillon, une religieuse belge, et oui, c'est pas une histoire belge, ou presque. Dès son adolescence, Julienne reçoit des visions mystiques où le Christ lui demande d'instaurer une fête dédiée à l'Eucharistie, ce sacrement où le pain et le vin deviennent, pour les catholiques, le corps et le sang du Christ. À l'époque, l'Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne, mais Julienne souhaite une célébration spécifique pour approfondir cette dévotion. En 1246, l'évêque de Liège, Robert de Tourotte, convaincu par Julienne, institue la première fête Dieu dans son diocèse. La célébration, marquée par des messes solennelles et des processions, gagne rapidement en popularité. Mais c'est en 1264 que la fête Dieu prend une dimension universelle. Le pape Urbain IV, inspiré par un miracle eucharistique à Bolzana, en Italie, où une hostie aurait saigné lors d'une messe, promulgue la bulle Transiturus. Il officialise la fête pour toute l'Église catholique, fixée au jeudi après la Sainte Trinité, soit 60 jours après Pâques. Au fil des siècles, la fête Dieu devient une expression vibrante de la foi catholique. Les processions eucharistiques, où l'hostie consacrée est portée dans un ostensoir, souvent richement orné à travers les rues, se multiplient. En Pologne, au Portugal, en Espagne ou en Amérique latine, les rues se parent de tapis de fleurs, de bannières et de chants. Ces cortèges, souvent accompagnés de fanfares et de prières, sont un témoignage public de la croyance en la présence réelle du Christ. En 2025, dans le cadre du jubilé de l'espérance pour les catholiques, ces processions prennent une résonance particulière, unissant des millions de fidèles à travers le monde. Alors aujourd'hui, dans les pays comme le Brésil, les Philippines ou la République démocratique du Congo, tout le monde vibre au rythme de la fête de Dieu. En Europe, malgré une sécularisation croissante des villes comme Cracovie ou Lisbonne, ils arrivent quand même à perpétuer ces traditions avec ferveur. Cette fête est aussi un moment de réflexion sur les mystères eucharistiques, un appel à la communion et à la solidarité, comme le rappelait à l'époque feu le pape François. Alors, en ce jour de la fête Dieu, j'ai voulu musicalement rendre un petit hommage, un petit clin d'œil à nos amis catholiques qui sont quand même plus d'un milliard dans le monde, hein, plusieurs milliards dans le monde, et aujourd'hui plusieurs millions à fêter Dieu. Alors, je vous laisse écouter ce moment un peu, ça change. C'est pas dans les habitudes de l'antenne, mais pourquoi pas, de temps en temps, c'est ouais, il y a de quoi. Voilà, je vous laisse découvrir. Voilà, c'était un chant latin et ces paroles ont été écrites par saint François d'Aquin. Pour vous donner un peu plus de précision, voilà un hommage donc pour ceux qui fêtent la fête Dieu aujourd'hui, les catholiques qui fêtent la fête Dieu aujourd'hui. Alors nous allons de ce pas continuer avec une autre info où la radio aura le plaisir de participer. Et oui, nous allons voyager pas loin de chez moi, peut-être que certains connaissent, puisque nous allons parler d'un festival. Un festival qui aura lieu le 18 et le 19 juillet 2025 à Cudrefin, au bord du lac de Neuchâtel en Suisse, à la cour du château Bonny. Eh bien, ce festival, c'est un festival de steel band qui a eu lieu pendant plus de 22 ans, mais qui, pendant presque 10 ans, n'avait plus lieu. Voilà, faute de moyens financiers, faute de le festival devenait lourd. Donc, je vais vous conter un peu l'histoire de ce festival, de ce steel band auquel la radio va participer. Alors, tout commence dans les années 1990 grâce à une Google Music locale, les Pampanas de Cudrefin, qui lance ce festival pour partager les rythmes caribéens des steel bands. Pendant plus de 22 éditions jusqu'en 2014, des milliers de spectateurs dansent sur la plage avec des groupes suisses, français et même britanniques. Après une pause, le festival renaît donc cette année en 2025 avec une énergie débordante, mêlant steel band et musique variée. Le vendredi 18 juillet, dit 18h jusqu'à 1h du matin, eh bien, venez nous rejoindre, ce sera gratuit et en direct en plus sur vos ondes. Vous aurez la possibilité de découvrir des groupes locaux, dont par exemple les Bonobos avec du blues, du rock des années 70 et 80, les Greyfriars, un groupe de rock vintage, et puis de la musique country avec les Boot Movers, et puis paroles et voix avec un son pop folk envoûtant. Anya Louise complétera cette soirée. Alors, une soirée éclectique qui ouvre ce festival en beauté, et notre équipe technique relèvera le défi de vous la transmettre en direct et en live. Et le samedi 19 juillet, dès 17h à 2h du matin, place au Steel Band avec cette fois-ci une soirée payante, 25 francs d'entrée. Il y aura Steel Band Lease, Exempto, Abracadabra et Out of the Blues Steel Band. Tous Suisses feront vibrer la cour du château chez Bonny. Et pour une touche internationale, Steel Plan in Motion depuis l'Angleterre qui apportera aussi son expertise. Donc attendez-vous à du calypso, du soca et des surprises jusqu'au bout de la nuit. Ce festival né des bidons d'huile recyclés à Trinidad célèbre la joie et la communauté. Pour illustrer cet esprit, je vais vous faire écouter un titre qui s'appelle Hapman, joué par le légendaire SO Trinidad Steel Band. C'est un titre qui est sorti en 1971, c'est une reprise des Kings, avec ses rythmes dansants et son appel à la simplicité, et puis qui va résonner, j'espère bien, avec l'ambiance de Cudrefin cette année. Les paroles, comme « Je ne veux pas être un homme singe, je veux être un homme naturel », invitent à une fête authentique. Et en plus, certaines paroles sont en accord, si je puis dire, pourtant depuis 1971, hein, mais sont en accord avec ce qu'on l'on vit, ce qu'on l'on découvre aujourd'hui au niveau de l'actualité.
Info ou un top.
Hapman, voilà, The SO Trinidad Steel Band. J'espère donc vous retrouver, donc réserver votre soirée, vos soirées du 18 et 19 juillet 2025 à Cudrefin. Et puis, j'espère vous rencontrer peut-être ce soir-là. Venez en direct aussi, ça peut être sympa. Il va y avoir une très bonne ambiance, très bien accueil chez Bonny, vu que pendant plus de 22 ans, ils ont quand même un peu d'expérience derrière. Pendant plus de 22 ans, ils ont tenu à bout de bras ce festival. Donc n'hésitez pas, réservez votre vendredi et samedi 18 et 19 juillet 2025. Passez faire un saut à Cudrefin au bord du lac de Neuchâtel. Voilà, on va continuer avec un autre sujet maintenant qui est d'actualité chez nous en Suisse. Ce sont les fameuses bilatérales 3. On a déjà eu les 1, on a eu les 2, maintenant on a les 3. Hein. Comme je disais au début de l'émission, on aura peut-être après les 4 ou les 5. Je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est un peu olé olé tout ça. Et quand on gratte sous les documents qui ont été publiés la semaine passée, bien quand on gratte un peu le vernis de ces accords qu'on nous sert comme soi-disant équitables, etc., ils n'ont pas grand-chose d'équitable. Mais bon, voilà, il faut quand même servir le mensonge à la populace pour qu'elle accepte ce genre de choses. Parce que concrètement et factuellement, ces accords coûtent, hein. Eux, ils coûtent du pognon aux contribuables suisses, environ 300 francs suisses chaque année. Alors vous allez me dire, 300 francs suisses, c'est pas grand-chose. Mais multiplié par les 5 ou 6 millions, ou 3, ouais, bon, on va dire un peu moins peut-être, mais bon, si on prend les entreprises, on arrive quand même à peu près 5 ou 6 millions de contribuables chaque année. Ça fait un petit pactole, d'accord ? C'est un pactole d'environ 900 millions de francs suisses. C'est pas mal, d'accord. Alors on va regarder combien ces accords vont rapporter factuellement, hein, et directement à chaque contribuable suisse. Alors j'ai été gratté, je me suis tapé quelques jours de lecture de ces accords. Il y a plus de 1800 pages, 13 annexes, etc. C'est assez lourd, assez difficile à comprendre. Alors je ne suis pas juriste. J'avoue que dans ces cas-là, plusieurs systèmes d'intelligence artificielle m'ont aidé à décrypter certaines parties du texte. Hein. Mais c'est assez choquant de constater qu'en fait, tout n'est que supputation, voilà. Donc, des supputations conditionnelles, hein, d'un montant variant de 200 à 2000 francs, qui pourraient annuellement normalement finir dans la poche des contribuables. Hein. C'est ce qui est dit, hein. C'est ce que les médias ont dit, c'est ce que les élus, le Conseil fédéral, a mis en avant. Hein. Effectivement, mais bon, ces montants-là sont soumis à tellement de facteurs et de variables socio-économiques qui sont concrètement dans l'absolu incalculables. Il faut bien se le dire. Donc là, on a déjà un gros problème, d'accord ? Et puis alors, je ne vous parle pas des nombreuses non-réciprocités dans le contrôle effectif et strict de l'utilisation des fonds que la Suisse va payer. Hein, donc le contribuable suisse paie pour cela. Alors aujourd'hui, hein, factuellement, il est déjà extrêmement complexe, voire impossible d'obtenir pour le contribuable suisse une comptabilité détaillée qui indique où et à quoi servent exactement sa contribution obligatoire en Europe. Ah ben oui, parce qu'on paye déjà. Rappelez-vous qu'on est depuis le début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, on a déjà les bilatérales 1, les bilatérales 2 qui sont arrivés, et là c'est le troisième. Donc on paye déjà, hein, pour l'Europe, d'accord ? Donc c'est assez énorme, quoi. Alors en Suisse ou en Europe, signer des accords qui obligent normalement, qui oblige les parties contractantes, un pays, donc là en l'occurrence la Suisse, à payer sans savoir exactement et de manière détaillée et concrète ce qu'elle obtient en retour, peut être en tous les cas de l'escroquerie, de l'abus de confiance et de l'enrichissement illégitime, etc. Hein ? Mais imaginez bien que c'est pas évident. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, les personnes qui décident de cela sont soit un quotient intellectuel proche du zéro absolu, ou alors sont corrompues jusqu'à la moelle. Voire les deux, hein, parce qu'il faut être complètement malade si on réfléchit par rapport à la population suisse de manière globale, de manière générale. Hein, nos élus, normalement, doivent réfléchir de manière globale et générale au bien-être de toute la population suisse. Eh bien, donc, il faut être vraiment bobet, avec un QI, comme je l'ai dit, proche du zéro absolu, ou être corrompu jusqu'à la moelle pour accepter et signer, donc déjà négocier et accepter ce genre d'accord. Parce qu'absolument rien n'est détaillé et très clair sur ce que concrètement et factuellement bah, obtenir la Suisse en retour de l'investissement d'environ, bah, comme je l'ai dit avant, 900 millions de francs annuels de la part venant des porte-monnaies des Suisses, des entreprises et des Suisses. Voilà. Alors moi, j'ai simplement une question qui est basique. Hein. Est-ce que vous, chers auditeurs, auditrices, vous signeriez un leasing de 3600 francs par année, sans compter les frais annexes, sans savoir quel type de voiture, la couleur ou sa puissance, etc., que vous aurez dans la finalité ? C'est-à-dire, on vous dit, monsieur, madame, vous signez votre contrat de leasing, là, hein, vous payez 3600 francs par année, et puis après, bon, on vous dira quelle voiture vous aurez, quoi. Alors, autre exemple aussi qui est très flagrant, hein. Est-ce que vous payeriez votre séance de cinéma sans savoir quel film vous allez voir, ni surtout dans quelle langue il sera projeté ? Alors, au prix de la séance de cinéma aujourd'hui, je pense que vous réfléchirez à deux fois. Voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe avec ces accords. Les contribuables suisses paient obligatoirement sans rien savoir du concret financier qu'ils vont avoir en retour. Alors, il ne faudrait pas venir me dire que ce n'est pas comparable, etc. Non. La loi et le droit, hein, non courbé, hein, parce que c'est vrai que la mafia a une fâcheuse tendance à courber le droit, notamment en Suisse, hein, mais bon, il paraît que c'est légal de courber le droit. Alors, je ne sais pas pourquoi on a appelé ça droit. Hein. Donc, normalement, c'est le droit et la loi sont les mêmes pour tous, à tous les niveaux, aussi bien en Europe hein, qu'en Suisse. D'accord ? Parce que, je le répète, en Suisse et en Europe, un contrat qui oblige une partie, comme un État, à payer un abonnement, hein, dira-t-on, sans que les prestations ou les contreparties soient clairement, précisément et concrètement définies, peut soulever des questions juridiques sérieuses. Eh oui. Cela pourrait potentiellement être qualifié d'escroquerie, d'abus de confiance ou d'enrichissement illégitime ou de tentative de celle-ci selon les circonstances et les lois applicables. Mais bon, hein, comme dirait l'autre, plus c'est gros, plus ça passe, hein, même avec du gravier et sans vaseline. Hein. On est quand même là dans un cas assez énorme. Alors il y a certaines voix qui se sont élevées, hein, et qui ont dit non, mais vous racontez des bêtises, cet accord, ces accords vont bénéficier de manière géniale aux entreprises du et des pays, c'est-à-dire suisses et européennes, et de ce fait indirectement aux contribuables. Alors, ben, si on se penche concrètement, à quelles entreprises pourraient aller les un peu plus de 12 milliards, vous rendez compte, 12 milliards hein, qui sont été calculés, soi-disant, de retour. Hein. Donc moi, j'appelle ça des 12 milliards virtuels, hein, pour le moment. Hein. Donc, de ces accords, de ces accords Suisse-Union européenne. Alors, en Suisse, des sociétés comme Novartis, Roche, Nestlé, Alpiq, ETH Zurich ou Suisse. Ah, mais Suisse, c'est pas Lufthansa aussi? Ah ouais, ben on va voir qu'ils bouffent à tous les râteliers alors. Suisse semble bénéficier, tandis que d'autres entreprises de l'UE, donc de l'Union Européenne, comme Bayer, Unilever, Point One ou Lufthansa. Ah ben voilà, Lufthansa. Et qui s'occupe de Suisse, Lufthansa. Ah d'accord. Donc ça bouffe à tous les râteliers, c'est bien ce que je dis. Pourraient en profiter, mais le retour pour les contribuables reste là encore très très flou. Alors, la part du PIB suisse dans cette entreprise, parce qu'il faut regarder à un moment donné, hein, il ne faut quand même pas prendre les gens pour des idiots, on se renseigne un peu et puis on apprend que la part du PIB suisse de ces entreprises est estimée entre 15 et 20%. Mais là encore, toujours, hein, les bénéfices pour les contribuables ben, sont toujours spéculatifs. On ne nous donne jamais rien. Tout est basé sur des hypothèses de croissance. Hein. Alors les hypothèses c'est bien joli, mais si on prend la définition du mot hypothèse ou hypothétiquement, hein, comme on pourrait le, voilà, eh bien ça veut bien dire ce que ça veut dire dans l'hypothèse 2. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes, par exemple, je sais pas moi, chinois, noir, blanc, jaune ou n'importe quelle couleur. Hypothétiquement, par exemple, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes milliardaire, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Voilà. Que vous possédez quelque chose, hypothétiquement, donc vous êtes milliardaire et vous possédez un château. Ah ben oui, voilà. Rappelez-vous ce que disait Klaus Schwab, entre guillemets, vous ne posséderez plus rien. C'est un peu dans ce sens-là que sont dirigés ces accords. Hein. Donc les contributions suisses d'environ 900 millions de francs par année, alors bénéficient aussi, hein, parce qu'il faut quand même expliquer, à des programmes de l'Union européenne, donc pour la cohésion, les agences comme le FSA, mais les bénéficiaires spécifiques dans l'Union européenne sont systémiques, pas nominatifs. Là aussi, c'est étonnant, mais c'est un grand flou pour les Européens. Il n'y a pas que les Suisses qui sont floués. Il y a aussi les Européens. Voilà. Alors plus en détail, pour aller un peu plus en détail, hein, les bénéfices estimés à 12 milliards donc, de francs incluent la croissance du PIB, l'innovation, par exemple avec le projet Horizon Europe, hein, pour la recherche, je crois. Et puis la stabilité, soi-disant énergétique. On a vu dernièrement avec l'immense panne qu'il y a eu en Espagne, une partie du Portugal, hein, stabilité énergétique. Hein, voilà. Mais ils sont indirects, donc via des hypothétiques emplois, salaires, etc. Hein, et profitent surtout aux grandes entreprises exportatrices et des régions frontalières comme Genève ou le Tessin ou Vaud. Voilà. Alors par exemple, l'accès au marché de l'Union européenne par rapport à la Suisse pourrait ajouter, comme je l'ai dit au début, 2000 francs environ par an par contribuable en croissance économique. Mais, je le répète, c'est extrêmement spéculatif et hypothétique. D'accord ? Et puis, je me suis penché aussi un peu sur ce que les pays de l'Union européenne pourraient gagner avec ça. Ben oui, parce que ça doit profiter à tout le monde et à tous. Hein. Donc, sur ces 900 millions de francs, eh bien, ces 900 millions soutiennent des initiatives pan-européennes, comme les fonds de cohésion, qui bénéficient aux régions moins développées de l'UE, exemple Pologne, Roumanie, etc. Vous avez des pays, c'est vrai, qui sont, voilà, donc on essaye de mettre tout le monde sur le pied d'égalité, mais c'est un peu bizarre quand même, c'est un peu bizarre. Parce que derrière, il y a encore des agences, hein, j'en ai cité une, la EFSA, ou bien le CDC, hein, alors, c'est des abréviations que j'avais notées, la signification, j'ai perdu ma page de texte, mais c'est pas grave, donc qui améliorent, soi-disant, la santé publique et la sécurité alimentaire pour tous. Les bénéfices spécifiques pour le contribuable de l'Union européenne sont diffus et là aussi extrêmement inexistants ou flous. Voilà. Via des projets régionaux et de collaboration, notamment dans les domaines de la recherche. Mais bon, on n'arrive pas à voir les détails exacts. Horizon Europe, c'est bien vaste. Mais quand on essaye de fouiller, de savoir exactement où est partie la part des 300 francs que chaque contribuable a mis, eh bien, il est très difficile de savoir où ça va exactement. Ou bien alors, ça va pour des projets comme, par exemple, au bord de la Méditerranée, un téléski. Et oui, je ne vous raconte pas, vous pouvez chercher sur Internet. Il y en a qui ont réussi à obtenir des fonds de l'Union européenne pour construire un téléski au bord de la Méditerranée, là où il n'y a jamais ou presque de neige. D'accord ? Alors, le Conseil fédéral, les médias et tout disent que ces accords qui ont été conclus le 20 décembre 2024, après des négociations lancées le 18 mars 2024, ils ont été très rapides, hein, pour sortir 1800 pages, il faut y aller, ils ont été super rapides, visent à moderniser les relations bilatérales et puis garantir une concurrence, accrochez-vous bien, équitable. Et tout ça, c'est dit par les autorités, repris par les journaux. Hein. Alors moi, j'interroge, parce que ça m'interroge. Équitable. Alors, je vois rien de factuellement d'équitable là-dedans, ni pour la Suisse et ni pour l'UE. Donc, ni pour les pays de l'Union européenne. Parce que les bénéficiaires ne sont, encore une fois, que quelques grosses entreprises en Suisse ou dans l'UE et qui ne produisent même pas un tiers du PIB. Mais ouais, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. Alors que les retours sur investissement devraient être pour tous, aussi bien dans l'Union européenne qu'en Suisse. Sachant qu'en Suisse, par exemple, hein, si vous ne le saviez pas, vous allez l'apprendre, c'est environ 600 000 PME. Dont ces 600 000 PME produisent les deux tiers, entre guillemets, fournissent les deux tiers des emplois. Et aussi les deux tiers des emplois de l'Union européenne, c'est-à-dire qui sont partagés sur 25 millions environ d'entreprises. D'accord ? Donc à chaque fois, les entreprises, les petites PME, etc., fournissent les deux tiers des emplois. C'est énorme. On a pratiquement 26 millions d'entreprises, d'accord, qui, eux, ont pratiquement rien touché au niveau en retour, d'accord. Alors moi, il va falloir que les autorités nous expliquent, hein, et puis détaillent beaucoup plus clairement et plus actuellement leur notion, hein, et définition du terme équitable. Parce que là, ça ne va pas du tout. Parce qu'en gros, ce ne sont qu'une centaine d'entités environ, hein, et encore, qui vont directement être bénéficiaires des deux côtés. Avec notamment, hein, je les ai déjà cités, Novartis, Roche, Nestlé, Alpic, ETH Zurich, Swiss, Bayer, Unilever, EON, Lufthansa et compagnie. D'accord ? Alors après, ce qui est amusant à aller voir, c'est qui est en amont derrière ces entreprises. Alors sans être acteur majoritaire, actionnaire majoritaire de ces entreprises, vous retrouvez Vanguard et compagnie. BlackRock, Vanguard et compagnie, qui ont un pouvoir financier énorme, même s'ils n'ont que 10% ou 15% des actions, ils ont un pouvoir financier énorme, un pouvoir de levier financier énorme sur ces entreprises. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, équitable, vous avez dit équitable, voilà. C'est assez space comme constat, hein. Et on voudrait nous faire croire que ça va rendre service et que ça va rendre plus beau nos contrées et que tout le monde va être plus heureux et que tout le monde va gagner plein de sous avec ces accords, alors que c'est complètement faux. Encore une fois, ces accords, depuis le départ, ne profitent qu'à une très petite quantité de personnes et n'est pas, les bénéfices ne sont pas redistribués équitablement dans le pays. Et même si on veut faire croire le contraire, au contraire, il est clair que depuis la signature des premiers accords bilatéraux, début des années 2000, qui ont commencé à être négociés en 1999, qui sont rentrés en vigueur en 2002, si mes souvenirs sont justes, eh bien, au départ, en 1999, on avait encore une... avant ces accords, avant tout ça, après que la population ait voté déjà non, hein, pour l'adhésion à l'Union européenne, on avait une Suisse qui était prospère. Eh oui, la Suisse était prospère, et c'était réel, hein. C'était palpable pour tout un chacun, pour tous les citoyens. Et avec des fausses promesses, eh bien, ils ont réussi à rendre cette prospérité réelle en prospérité virtuelle depuis le début des années 2000. On vous raconte des conneries, c'est des mensonges. Tout coûte beaucoup plus cher, on a une inflation galopante. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais la banque nationale suisse, elle gère ça, là. Elle a mis le taux à 0%. Ouais. Juste pour éviter la déflation. Hein. Ah oui, ça ferait chier, il y en a qui auraient moins de pognon derrière. Ah, je suis pas expert comptable, mais quand même, hein. Moi, je vois bien que tous les prix augmentent. Quand vous allez à la supérette du coin et puis que vous remplissez un de ces petits paniers là, en plastique, et puis qu'il y a encore 4 ou 5 ans ou 6 ans, ça vous coûtait 50 francs, puis qu'aujourd'hui, le petit panier vous coûte 100 francs suisses. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Il y a quand même de quoi s'interroger. Où est le pognon ? Ah, mais on a augmenté les normes et tout, parce que vous comprenez, il a fallu qu'on s'annule sur l'Union européenne, puis ça coûte cher. Parce que c'est ça derrière. C'est ça derrière qui est coûteux aussi pour les entreprises. C'est cet alignement avec les normes européennes, sans possibilité de discussion. Alors si, vous allez me dire, oui, mais il y a des annexes qui prévoient pour l'agriculture, pour l'électricité, pour les emplois, pour machin. Non. C'est du foutage de gueule fédéral. Tous ces annexes sont faits pour vous la mettre à l'envers bien profond. Parce que dans la finalité de tout ça, c'est toujours les mêmes qui gagnent, d'accord ? Et ce sera toujours l'Union européenne qui va décider pour tout. Alors jusqu'à présent, même si ces accords sont déjà signés, parce qu'ils sont déjà signés, hein, parce qu'ils ont un effet rétroactif au 1er janvier, donc on paye déjà pour ces accords, d'accord ? La votation est prévue dans 3 ans. Alors je ne sais pas comment ils vont faire si le peuple refuse par votation ces accords dans 3 ans, puisqu'on devra voter. Dans, pour certaines choses, ça va très vite pour voter. Pour d'autres, alors, c'est extrêmement long, hein, notamment pour le projet contre Séraph. Hein, là, on sèche, on attend. Hein, mais pour les accords aussi, on attend, hein, parce que derrière, ça brasse du pognon, ça brasse du fric. J'aimerais bien savoir comment le Conseil fédéral, hein, nos parlementaires, nos gouvernements et nos administrations vont pouvoir, le jour où le peuple dira non, vont pouvoir aller toquer à la porte de l'Union européenne, puis dire « Ah ben maintenant, il faut nous rembourser. » Ben oui, puisqu'on a payé, mais c'est le peuple qui refuse. Oui, parce que c'est quand même extraordinaire. On paye, on paye avant d'accepter. Vous voyez ? C'est comme si vous alliez chez le coiffeur, hein, il y a certains métiers, certaines professions, certains endroits ou certains services que vous obtenez et que vous payez après réalisation de l'acte, notamment le restaurant, la coiffure ou le garagiste. Mais c'est pas sans raison. Donc là, c'est comme si vous alliez au restaurant, vous payez en premier. Ils ont réussi à le faire avec McDo, c'est quand même extraordinaire. Hein. Ouais. Vous allez donc au restaurant, vous payez, la bouffe est dégueulasse, on vous rembourse pas. Hein. Donc c'est normal qu'on paye après. Et encore, pour certains restaurants, on devrait avoir un délai de 10 jours pour payer. Ah bah oui, parce que vous rentrez à la maison 3 heures après... Si vous faites caca en spray, ça va pas être heureux, hein, vous n'allez pas être joyeux. Hein. Bref, c'est une plaisanterie, mais voilà. C'est pour vous dire. On est vraiment dans un gros délire qu'on essaye de nous faire croire juridiquement et tout ça bien en place. Mais en attendant, on n'est pas dans le caca avec des histoires pareilles, avec des bilatérales pareilles, qui en fait devraient être complètement retirées. C'est-à-dire qu'on devrait annuler la signature, on devrait tout annuler, passer ces bilatérales, ces accords, ces papiers, mais que ce soit les 1, les 2, les 3, hein, on devrait tout annuler, refermer nos frontières, rester chez vous, nous on reste chez nous, il n'y a pas de problème. On devrait enlever l'État, on va dire, de l'équation au niveau commercial. Hein. Celui qui a envie d'exporter, bah, qu'il aille lui négocier ses prix à l'étranger. Qu'il aille lui, voilà, nous on a des salaires qui sont tant, celui qui ne les respecte pas, qui vient bosser chez nous, eh bien, il est à l'amende, il n'a pas le droit de venir bosser. Terminé, on a des lois, ça marchait pendant des années, pendant des décennies, ça a fonctionné comme ça, et tout à coup ça ne marche plus. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. On vous fait toujours croire que c'est pour votre bonheur, c'est pour votre sécurité, vous allez avoir plein d'argent dans le porte-monnaie. Et moi, plus je vieillis, plus je regarde les gens autour de moi, eh bien, plus je vois les gens s'appauvrir. De manière générale, de manière globale, on a quand même 10% de la population qui ne peut pas vivre décemment en Suisse. Ah, ce serait extraordinaire pour avoir 2000, ils disent même jusqu'à 2500 francs en plus tous les ans grâce au bilatéral. Ah, vous pensez que on va dire que le simple employé, hein, dans les supérettes par exemple, hein, aura 2000 francs de plus sur son salaire chaque année, 2500 francs de plus? J'en doute très 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 fortement. J'en doute très fortement. Par contre, les gros vont s'encaisser du pognon, qui vont, par optimisation fiscale, faire disparaître dans la nature, ou bien faire comme Seraf, par exemple, le distribuer aux petits copains. À la maison mère, on distribue 5 millions sur le pognon des contribuables, parce qu'on a fait des bénéfices. Aïe, 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 aïe. Mais il ne faut rien dire, c'est normal. C'est normal, moi j'y connais rien. Hein, mais non, mais tout va bien. On a légalisé l'escroquerie. On a légalisé l'abus, on a légalisé beaucoup de choses qui n'auraient jamais dû l'être, et l'État devrait retirer ses mains et simplement faire le boulot pour lequel l'État au départ a été conçu, c'est-à-dire se rendre service à la population. Gérer, alors ok, les trucs intercommunaux, intercantonaux, internationaux, mais de manière toujours en respectant la population, le peuple souverain, qui est à la base de tout, normalement, hein. Et là, ils ont tout inversé, et puis non, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Vous pouvez crever la gueule ouverte, vous êtes des esclaves, et c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est vraiment dommage. Je vais continuer mes explications après petite pause musicale. Les bilatérales 3, voilà, un blues hein, sur ces bilatérales. Une production radio électron libre, tiens. Un premier titre qu'on a produit, ok, c'est un peu du vite fait, mais voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. On a bousillé notre pays, on est en train de bousiller certaines personnes, certains individus, certains groupements sont en train de bousiller notre pays, tout simplement. Et oui, il faut le dire clairement, ce sont des vendus, des traîtres à la nation, des traîtres à la Constitution, et notamment un personnage comme Ignacio Cassis qui a eu le culot concernant ce bilatéral 3 de dire que c'était l'équivalent du pacte fédérateur, donc du pacte constitutionnel de 1291. Alors soit ce monsieur a lu le pacte mais n'a rien compris à ce pacte, soit il ne l'a pas lu, et puis il n'a non plus pas lu les bilatérales 1, les bilatérales 2 et les bilatérales 3. Parce que dire quelque chose d'aussi énorme et d'aussi, c'est vraiment, je dirais, se foutre de la gueule de la population suisse, tout simplement. C'est-à-dire des patriotes, c'est des gens qui ont la Suisse dans le cœur et qui sont, qui sont fiers de leur pays, fiers de leur nation, et fiers de ce qu'elle est devenue au fil des années, au fil des siècles. Hein. Et là, c'est s'asseoir sur tout ça, voilà. Et c'est un manque concret, c'est une trahison concrète par rapport à la population suisse, de manière générale, de manière globale. Donc si moi je serais lui, hein, je démissionnerais, ou je serais les parlementaires, je demanderais sa démission, sa destitution avec effet immédiat, parce que c'est inadmissible. Et comme je l'ai déjà dit et répété, ce texte des bilatérales 3, ainsi que les autres, hein, ses prédécesseurs, hein, devraient être abolis, on devrait mettre tout ça dans la déchiqueteuse et arrêter avec ces conneries, parce que c'est assez énorme ce que impose l'Union Européenne, va imposer l'Union Européenne, qui est proche de la faillite. Hein. C'est l'Union Européenne derrière, c'est des dettes de plus de 34 000 milliards de dettes. Hein. C'est énorme au niveau de tous les pays, etc. C'est énorme. Hein, la France a déjà plus de 3 000 milliards de dettes. Hein. Ouf, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Et puis nous, il faudrait qu'on arrive à mettre encore un milliard là-dedans pour que le pognon disparaisse dans la poche de quelques individus, au détriment de tout pratiquement. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. L'Europe est en train d'imploser, on le voit économiquement, notamment en Allemagne, hein, où tout fout le camp. Et puis on a aussi d'autres exemples qui sont complètement farfelus, où vous aviez une centrale nucléaire il y a quelques années qui ont dit ouais, « on ne veut plus de nucléaire en France ». Alors ils ont commencé à démanteler une centrale à Fessenheim qui était toute récemment rénovée et qui pouvait encore fonctionner pendant 50 ans. Eh bien figurez-vous que cette nuit ou hier, l'Assemblée nationale française a décidé de la remettre en route. Ben oui. C'est un article dans Le Parisien que j'ai lu de manière assez tenée, mais je l'ai lu et j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est irréalisable. Ça fait 5 ans à peu près maintenant, ou 4 ans, qui démantèlent cette centrale. Et puis là, ils disent, ah ben non, on va la remettre en route pour finir. Donc ils ont dépensé des milliards pour la rénover. Où est parti cet argent ? D'accord ? Donc ils l'arrêtent, et puis maintenant ils ont dépensé déjà pas mal de millions ou de centaines de millions d'euros pour la démanteler, et puis maintenant ils vont dépenser encore des millions d'euros pour la remettre en route. Il n'y a pas quand même un problème là ? Normalement, moi on m'a toujours expliqué que diriger, c'était gouverner, etc., c'était prévoir. Et là je crois qu'en fait ils ont pris des décisions de fermeture, etc., pour... encore une fois, remplir la poche, les poches des petits copains à gauche et à droite, c'est pas du tout normal, pas du tout normal. Mais voilà, c'est ce qui est devenu, entre guillemets, les pays, ce que sont devenus les pays de l'Union européenne, où à un moment donné, vous avez des entreprises qui commencent à comprendre que, eh bien, il va falloir qu'elles négocient eux-mêmes leurs accords, notamment avec les États-Unis, commerciaux, donc les accords commerciaux avec les États-Unis, etc. Et puis, encore en France, hein, Renault a bien fait comprendre, ou Citroën, etc., les différents groupes constructeurs automobiles, ils ont bien fait comprendre à leur président, là, que c'était, il avait qu'à fermer sa gueule, et puis qu'ils allaient eux-mêmes traverser l'Atlantique, aller discuter de ce qu'ils pouvaient faire économiquement pour continuer à vendre des voitures, notamment aux États-Unis. Voilà, donc ils vont délocaliser, je pense, des usines aux États-Unis pour éviter les taxes. Encore une fois, il ne faut pas que l'État vienne se mêler du commerce, que l'État encadre pour éviter les abus, hein, que l'État, que le droit, que la loi encadre pour éviter les abus, le commerce, d'accord, mais qu'elle mette son nez dedans et que l'État devienne une entreprise, entre guillemets, elle-même partie prenante de ce commerce, c'est vraiment très malsain. Très 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 malsain, et c'est un double jeu qu'on voit à tous les niveaux, qu'on constate en Suisse avec l'interférence des lobbies, hein, à travers le pays, à travers tout ce qui se passe, dernièrement notamment suite à certaines discussions, hein, que j'ai pu lire sur X notamment, où les gens commencent à se poser des questions au niveau politique en Suisse, de dire mais comment on peut arriver à un moment donné à élire, à nommer c'est des gens pareils qui sont en train d'aller contre ce que veut à quelque part le on va dire la population suisse. Tout un chacun dans son coin décide, mais a envie de vivre décemment, de pouvoir manger, avoir des loisirs, travailler un peu, hein, voilà. Mais c'est pas possible. Alors il y a des gens qui commencent à s'interroger de savoir comment sont élus et comment arrivent des gens comme Ignacio Cassis ou d'autres dans différents cantons, dans différentes communes ou dans voilà des grandes communes, etc. Comment ces gens arrivent au pouvoir ? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement que ces gens-là, eh bien, sont mis en place par les partis politiques au départ. Eh oui, c'est mis en place par les partis politiques au départ, et puis Ensuite, eh bien, on se retrouve avec ces partis politiques qui sont, eux, payés par les lobbies. Eh bien, on se retrouve avec des gros problèmes, donc avec des conflits d'intérêts énormes. Et ça dérègle tout le système. Ça dérègle tout le système parce que ces gens, en fait, s'en foutent complètement de comment dire ça de ce qui peut arriver. Alors en plus de ça, dans ces gens qui sont élus, hein, on a énormément de juristes, d'accord. Donc si on prend le cheminement, donc tout débute, comme je l'ai dit, lors de la sélection des candidats en amont. Donc les lobbies font leur choix déjà là, d'accord, parce que c'est un choix qui est déjà fait à l'université. Ben oui. Vous prenez par exemple des gens qui font médecine à l'université, vous avez des gens au fond de la salle, le candidat est bon, on va lui obtenir une bourse par rapport à une ONG qui va donner une bourse à ce candidat parce qu'il n'a peut-être pas les moyens de payer l'université, etc. Donc c'est des gens qui sont redevables après derrière. Donc on a les lobbies qui sont puissants, hein, au sein des partis politiques, et puis qui favorisent une sélection qui est déjà biaisée, et puis donc justement qui ne reflète pas la volonté et les désirs de la population. Et puis ça, ben, même dans les communes, hein. Alors, extrêmement peu de candidats, et puis vous l'avez remarqué depuis ceux qui ont un certain âge, hein, mais extrêmement peu de candidats entièrement indépendants arrivent à des résultats lors d'élections. Hein, ben, il faut bien simplement se poser la question pourquoi. Alors, les candidats sélectionnés par des partis le sont de manière très spécifique en fonction des besoins des lobbies. Hein, ils doivent être pas trop jolis, hein, on prend physiquement, pas trop moche, pas trop grand, pas trop petit. Etc. Et puis, oui, alors je parle du physique, mais ils doivent surtout être, on va dire, manipulables. C'est un peu, simple, mais il faut aller regarder plus loin. Il faut aller regarder plus loin dans le schéma. Ils doivent être donc manipulables en amont par la direction du parti dans lequel ils sont inscrits membres, d'accord. Ils doivent savoir presque bien causer en public, par exemple. On les fait suivre des cours de théâtre, hein, d'accord. Et puis, pour être poli, être au maximum vierge de toute casserole anale. Voilà. Alors, dans les faits, hein, le QI ou bien le quotient, donc le quotient intellectuel ou le quotient émotionnel, les lobbies, eux, ils n'en ont strictement rien à faire. Hein. Ce qui compte, c'est que les candidats soient manipulables, influençables le plus possible en arrière-plan, et cela, si possible, sans même qu'ils ne le réalisent. Voilà. Donc, vous avez des gens qui sont maintenant, que vous voyez, qui causent à la TV et tout, hein, vous mettez ça en corrélation, d'accord. Alors là, on rentre dans un truc qui est complètement dingue et que peu de gens saisissent, parce que même s'ils ont été confrontés personnellement, de manière directe ou indirecte, ils s'en sont pas rendus compte, mais on est dans la manipulation psychologique de haut vol, propre à des sciences comme la PNL, donc c'est la programmation neuro-linguistique, ou d'autres, hein, qui sont plus entre guillemets modernes. Hein. Moi, je trouve qu'on a juste changé les noms et affiné le système de manipulation, mais ça rejoint cette PNL, hein, de départ, d'accord. Ou par exemple, des intervenants externes présentés eux aussi, hein, comme de possibles candidats pour les élections, hein, eh bien, mais eux sont formés à haut niveau dans ces domaines, donc de la manipulation, évaluent les candidats sans qu'ils le sachent, pour déterminer leur taux dans divers domaines, manipulation, acceptation, etc. Selon par exemple, hein, les travaux comme, je vous laisserai les découvrir, c'est assez des fois difficile à lire, difficile à comprendre, mais ça vaut la peine, c'est Robert Cialdini qui a écrit quelques bons bouquins sur l'influence, etc. Alors c'est vrai que c'est très difficile à prouver, hein, ce que j'explique là, pour des raisons évidentes, hein, on ne va pas s'exposer, mais ces choses-là, on ne peut pas les écarter. Donc il faut garder en mémoire que le fait de manipuler des gens au niveau politique et que les candidats soient manipulables, c'est des choses qui, à mon avis, doivent être assez courantes. Donc en apparence, ces candidats sont élus, ce sont des leaders populaires. Mais dans la réalité, ils ne sont que des marionnettes, des suiveurs de premier ordre. Même si vous le jurez le contraire, parce que vous allez vers un élu aujourd'hui, vous lui dites « mais toi t'es manipulé », ils vont vous jurer, hein, le contraire avec véhémence, et à la limite vous insulter, vous dire que vous êtes un complotiste, etc. Hein. Mais ces gens-là, par derrière, parce qu'avec la manipulation va tout ça, eh bien ils vendraient enfants, père, mère et mère pour satisfaire le gourou, hein, du parti. Car depuis le départ, leur inscription dans un parti, eh bien, ils ont donné, cette inscription leur a donné un sentiment d'appartenance, d'utilité, et, ou alors un but, hein, ou des buts dans leur vie, on va dire basique, de dodo boulot métro, ou alors une vie estudiantine prolongée, eh bien oui, à 35 ans, je suis toujours à l'université, ou 40 ans, je suis toujours à l'université, j'habite toujours chez papa-maman, voilà. Alors pour ça, il faut aller voir les travaux, encore une fois, hein, je ne parle pas en l'air, il faut aller voir les travaux de Gregory Berns sur la conformité sociale. Je vous laisse aussi découvrir ce que ce personnage, ce monsieur a écrit. C'est assez intéressant, aussi des fois parfois compliqué à lire ou même à comprendre, mais essayez, donc allez voir vraiment Robert Cialdini et Gregory Berns, c'est vraiment, voilà. C'est les deux, en tous les cas, personnages qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de décortiquer ça dans le système des élections, le système de la manipulation humaine. J'ai aussi derrière un léger background en études de PNL, donc c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je me permets de soulever ce sujet-là. Alors pourquoi des juristes de préférence ? Parce qu'ils sont déjà passés par la machine idéologique universitaire de modélisation. Cette machine, elle est sponsorisée par les lobbies aussi. Ah oui, la boucle est bouclée à quelque part. La boucle est bouclée. Les lobbies ont mainmise, entre guillemets, sur tout, pratiquement tout, quoi. Et c'est très très complexe de sortir de là, hein. Donc ils sont sponsorisés par les lobbies. Et ils sont donc plus, entre guillemets, aptes, hein, à comprendre, assimiler et surtout écrire, retranscrire dans les règles imposées par l'État. Il y a des conditions, par exemple, si vous voulez déposer une initiative, hein, et vous devez suivre un certain schéma, etc., qui est imposé par la loi, par l'État, voilà. Donc, ils ont cette possibilité-là parce qu'ils sont juristes, donc l'émotion pour écrire tout ça, l'émotion, les textes, d'accord ? Et puis après, ces textes en amont sont discutés, même inventés, hein, parce qu'ils peuvent aussi les inventer, hein. Et puis, ils sont ensuite innocemment, entre guillemets, hein, inculqués en vous disant « c'est tellement pratique ». D'accord ? C'est pour votre sécurité, etc. Donc ils sont inculqués dans les hautes sphères des partis, sous l'influence directe ou indirecte, encore une fois là, des lobbies qui ont leur entrée du fait de financement ou d'avantages directs ou indirects pour les membres, bien souvent les cadres des partis, qui eux-mêmes sont actifs dans ces mêmes arcanes du lobbyisme. Ouais. C'est une espèce de milieu fermé où ça tourne en boucle et... c'est quelque chose que les gens se sont tellement occupés entre guillemets à vivre leur vie qu'ils ne se rendent pas compte que derrière on a une espèce de circuit fermé où tout à coup il y a un candidat qui sort entre guillemets du lot, mais en fait il sort pas du lot, il est imposé par les lobbies parce que les lobbies savent que cette personne va aller dans leur sens au niveau des travaux de l'État et de ce qui est décidé, hein, normalement qui devrait être décidé pour la population de manière globale, et bien là ça va être décidé non pas pour la population, ça va être décidé pour les entreprises, pour des lobbies, pour des petits groupes de personnes, même pas des grosses entreprises nécessairement, c'est celui qui aura la plus de capacité entre guillemets de manipulation derrière. Voilà, il suffit des fois d'un être humain et vous avez des sectes qui existent ou de deux, trois êtres humains et vous avez des sectes qui sont créées et qui peuvent avoir des millions ou des milliers d'individus, de membres. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'une majorité de juristes, hein. Il suffit juste d'un faible pourcentage entre guillemets d'experts, hein, pour manipuler le reste des élus et puis de la population. On l'a vu notamment avec le Covid. Hein. Vous aviez des gens qui venaient à la télé et puis des universitaires, des scientifiques en neurologie, etc., qui venaient dire non, mais les complotistes, ils n'ont pas à penser, ils n'ont pas à chercher. Je crois que c'était un monsieur qui travaillait à l'université de Fribourg. Voilà, là, ça prouve bien qu'il y a aussi là justement un gros problème. Quand quelqu'un vient vous sortir une absurdité pareille ou que les complotistes n'ont pas à chercher, n'ont pas à penser, c'est pas leur rôle, entre guillemets, mais on en est où ? Chaque être humain est capable et a le droit, je crois que c'est fondamental, de réfléchir, de penser comme il l'entend. Hein ? Après, il y a les cadres qui sont définis par l'État, mais l'État ne va pas s'en mêler encore de savoir quelle est la couleur de votre slip. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Donc, pas besoin d'une majorité de juristes pour décider de tout ça, d'accord ? Et puis, en plus, derrière... Ce qui ressort après en aval, eh bien, est complètement biaisé. Et puis, on a aussi derrière pour accompagner toute cette manipulation, eh bien, les médias qui relaient, d'accord, et puis qui sont eux aussi, eh bien, sur le même joug de corruption des lobbies et d'autres derrière. Donc c'est un petit groupe, hein, ils ne sont pas énormes, mais qui arrivent à faire des grandes choses, parce que demain, ils ont l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, ce qui est un peu dommage. Avant, on avait comme nerf de la guerre, on avait les connaissances, les compétences. Maintenant, on a le pognon, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un quotient intellectuel au zéro absolu, pareil avec son quotient émotionnel, mais parce qu'il a hérité de la fortune de papa, ou de maman, ou bien d'un oncle, je ne sais pas quoi, et puis le gars, il est multimilliardaire, eh bien, il va pouvoir faire la loi. C'est très grave, c'est très dangereux, mais c'est ce qui est en train de se passer un peu maintenant, c'est-à-dire que vous avez des gens, voilà, qui ont hérité peut-être d'empires, hein, et puis financiers, donc qui valent des milliards et des milliards, et puis qui s'amusent au détriment de milliards de personnes sur Terre. Voilà. C'est pas si complexe que ça, en fait. Les gens qui veulent vous dire « Ah oui, mais c'est plus complexe que vous racontez, etc. » Non. Il y a quelque chose à cacher si on dit que c'est complexe à un moment donné. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses... En fait, c'est pas dans la complexité. En fait, c'est dans la propension qu'on a à comprendre les choses. Souvent, quand on boussort, c'est complexe parce qu'on ne les comprend pas. Alors, vous avez des gens qui n'arrivent pas à comprendre quelque chose, vous avez d'autres personnes qui le comprennent parfaitement. Donc là encore, il y a un déséquilibre. Donc quand on vous dit c'est complexe, non, c'est pas complexe, c'est peut-être que toi t'arrives pas à tout comprendre, mais moi j'ai compris en grande partie, peut-être pas tout, mais en grande partie, j'ai compris où on voulait en venir. Voilà. Donc ça c'est très difficile, on le voit aujourd'hui avec les tensions qu'il y a au niveau géopolitique sur la planète, certains disent ceci, d'autres disent cela, et après ils sont pas d'accord entre eux, mais à quelque part le but premier de leurs explications est essayer de comprendre. Voilà, c'est pour ça que l'union fait la force. Tous ceux qui sont en train d'être un peu de se tirer dans les pattes parce que il y en a un qui pense pas comme lui, etc. Mais ils devraient peut-être se mettre ensemble. Au départ, c'était des amis, hein, c'était des connaissances, etc. Ils avaient le même but, le même projet d'informer les gens, de les réunir et d'essayer d'apporter, on va dire la vérité la plus vraie possible. Si on peut dire. Et puis, ben non, là, ils sont en train un peu de se tirer dans les pattes. J'espère que ces gens-là comprennent qu'il faut plutôt se mettre ensemble et discuter, échanger, pour en arrière-plan, hein, pas besoin de le faire dans le domaine nécessairement public, mais pour accorder les violons et voir concrètement ce qui est perçu, ce qu'on perçoit, parce que chacun a une perception des choses qui est propre à lui-même. C'est comme une empreinte digitale. Chacun a des empreintes digitales différentes, eh bien la perception qu'on a de la vie, de ce qu'on a qui nous entoure, que ce soit le son, que ce soit la lumière, les couleurs, les visages, eh bien chacun a sa propre perception, qu'on essaye malheureusement hein, de standardiser aujourd'hui, mais voilà. Donc, les gens parlent d'indépendance au niveau des on m'a répondu ça quand j'ai exprimé ce que je vous explique là. On m'a dit oui, mais mais il existe encore une indépendance des PME ou des bureaux d'avocats ou d'autres entreprises. Mais moi, j'aurais dit à ces gens-là, mais sachez que certains représentants de l'État et des lobbies exercent des pressions économiques, d'accord, comme les menaces de perte de mandat. S'il adviendrait qu'à un certain niveau, les choix ou autres décisions de ces entreprises risqueraient de mettre à mal les lobbies. Voilà. C'est assez fou parce qu'on a l'impression que l'État, alors qu'elle devrait être au service du concitoyen, eh bien l'État maintenant est devenu entre guillemets partie prenante dans les lobbies, est devenu un lobby entre guillemets, le lobby étatique lui-même, ce qui est complètement fou et ce qui sort complètement de la notion que nos ancêtres ont voulu en mettre en place avec les services dits publics. J'ai déjà parlé de ça il y a quelques émissions avec le fait de privatiser si vraiment les entreprises privées étaient capables de fournir de manière appropriée et en continu surtout les services publics, eh bien je comprends pas pourquoi les services publics existent. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Alors, juste pour terminer sur ce sujet-là et puis terminer l'émission du jour, c'est au passage, hein, et pas non plus sans raison, hein, sachez que, par exemple, dans le département fédéral des affaires étrangères, on a une forte proportion de juristes. Alors maintenant, si vous faites un rapprochement par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, je pense que vous comprenez mieux pourquoi ça paraît tellement dystopique, ce que veulent les gens, c'est-à-dire la population de manière générale, et ce que réalise l'État. On est complètement à décaler, on est complètement à l'opposé pour une majorité de gens de ce qu'ils ont envie et de ce que réalise l'État. D'accord. Puis sachez qu'aussi qu'en 2023, hein, 20% des parlementaires déclaraient des mandats liés à des lobbies, d'accord, puisqu'en 2022, il y a une loi sur la transparence qui a été instaurée. Alors, je terminerai simplement en disant, influence en amont, mon amour. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne après-midi. Tout dépend de où vous nous écrivez, de où vous nous écoutez. N'oubliez pas de soutenir Radio Électron Libre. Je remercie tous ceux qui l'ont fait. Et dernièrement, il ne faut pas que j'oublie les prénoms, il y a eu Marlise, Nicole, Elmi, Chico, Laurent, Nathalie, Cathy, Natal, Doucette, Paul, Joanne, Joël, Michel, Angelica, Christine, Claudie. Et puis la famille K, voilà, il y en a d'autres aussi, je n'ai pas la liste en entier sous les yeux, mais merci à eux de soutenir la radio, de soutenir ce qu'on fait. N'oubliez pas de noter dans vos agendas dans un mois, je sais, mais je vous avertis déjà avant, comme ça vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, le 18 juillet, 18 et 19 juillet pour le festival du Steel Band à Cudrefin, en Suisse, au bord du lac de Neuchâtel. Et puis, surtout, ne cessez pas de vous interroger, de vous questionner, et puis de questionner les gens aussi autour de vous, de discuter, de partager, d'échanger. C'est important parce que ce qui se passe, on peut l'arrêter. Il suffit qu'ensemble, on se mette et puis qu'on dise non. Il y a la possibilité de dire non. Alors, je vous dis au revoir. Je vous souhaite tout de bon. Et puis, à jeudi prochain pour un nouvel Info ou un Tox, bien de chez nous ou de chez les autres, version XXL.